France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Incursion de drones en Pologne, au Danemark et en Estonie. Sabotage et désinformation, Moscou mène bien une guerre hybride contre l'Europe faite d'ambiguïté et de pression diffuse. Ces offensives prolongent la guerre en Ukraine en ouvrant de nouveaux fronts sans toujours déclencher d'affrontements directs. Mais cette tactique n'est pas seulement contemporaine, elle s'inscrit pleinement dans une tradition plus longue, celle du despotisme impérial où le pouvoir russe combine autorité arbitraire et expansion territoriale. Alors comment cette notion, le despotisme impérial, nous permet-elle de mieux comprendre les relations entre la Russie et l'Europe? Pour nous éclairer, une invitée ce soir, Sabine Dulin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Réflexion au pluriel sur le despotisme impérial de la Russie ». C'est aux éditions Payot. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
L'Europe doit apporter une réponse forte et unie aux incursions de drones russes à nos frontières. C'est pourquoi nous proposerons des mesures immédiates pour créer un mur anti-drone dans le cadre de la surveillance du flanc oriental. Nous devons avancer ensemble avec l'Ukraine et l'OTAN.
Nous devons protéger notre espace aérien. Le projet du mur anti-drone est opportun et nécessaire car nous ne pouvons pas dépenser des millions d'euros en missiles pour neutraliser des drones qui ne coûtent que quelques milliers de dollars. C'est pourquoi nous avons besoin de ce mur anti-drone.
La voix d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, puis celle de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Réunis à Copenhague les 1er et 2 octobre dernier, les dirigeants de l'Union européenne ont eu du mal à structurer une réponse cohérente vis-à-vis de la Russie. Est-ce que c'est parce que, Sabine Dulin, ils ont, dans le fond, ces dirigeants du mal depuis plusieurs années maintenant à penser véritablement ce qu'est l'impérialisme russe?
Oui, je pense que vous avez raison. La première chose, malgré tout, c'est la peur d'entrer dans une guerre. Donc, c'est la peur de l'engrenage. Et bien évidemment, toute réponse paraît un danger, un risque. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, puisque d'une certaine manière, le premier geste de Poutine qui signifiait qu'il voulait réviser les frontières et donc changer la donne finalement sur notre continent, c'était l'annexion de la Crimée en 2014. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la réaction occidentale était très limitée. On s'est dit, après tout, pourquoi pas, la Crimée était russe, on va quand même pas... C'est effectivement une remise en cause des frontières, ce qui est aujourd'hui, ce qui est depuis un certain temps rarissime. Hein. Normalement, le droit international implique qu'on ne remet pas en cause les frontières. Mais quand même, il y a eu quand même peu de réactions. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on aboutit à cette situation où, à chaque fois, finalement, la Russie teste notre capacité ou non à réagir. Évidemment, ça fait penser à l'apaisement, la politique menée à l'égard de l'Allemagne nazie dans les années 30, où à chaque fois, on trouvait des justifications aux gestes agressifs de Hitler. Donc c'est vrai que c'est un problème. Alors là, ce qui est frappant quand même, c'est que il semblerait qu'il y ait une volonté, malgré tout, de monter le ton. Et bien évidemment, c'est parce qu'à un moment donné, ça touche directement l'Europe. Donc le discours qui est depuis longtemps tenu par Zelensky, qui dit que la guerre en Ukraine concerne l'Europe, que la Russie et l'Ukraine sont en Europe, au fond, et que le destin est commun, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être commence à entrer un tout petit peu dans la tête des dirigeants, parce que jusque-là, malgré tout, on considérait que c'était une affaire qui restait une affaire entre la Russie et l'Ukraine, sauf quand on est dans les pays baltes, quand on est en Pologne, quand on est en Moldavie, parce que là on sait très bien que cette menace concerne. Et là, c'est ce qui est très frappant, c'est si on reprend, il y a un texte que j'utilise dans mon livre que je cite dans la deuxième partie, Marx, au milieu du 19e siècle, à propos de la Pologne, qui explique que la Pologne est nécessaire, la liberté de la Pologne est nécessaire à l'Europe. Et il est clair que là, l'Ukraine la liberté et la paix en Ukraine et l'intégrité de l'Ukraine est nécessaire à l'Europe.
Lorsqu'on vous entend, Sabine Dulin, vous nous expliquez que cette guerre hybride, elle sert dans le fond à tester aujourd'hui l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne. Mais si on tire le fil de vos explications, on se dit aussi peut-être que la Russie prend un risque en nous testant, puisqu'elle nous fait prendre conscience que nous habitons le même continent que l'Ukraine, que la guerre qu'elle mène, que la Russie mène sur le territoire ukrainien nous concerne au premier degré. Est-ce que là, encore une fois, la Russie ne risque pas de nous impliquer plus directement, en tout cas, d'enclencher chez nous une prise de conscience ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut pas. C'est pas parce que Poutine a tous les pouvoirs que c'est le despote à Moscou, comme il y a eu souvent des despotes au Kremlin. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui ne se trompe pas. Et je pense que, justement, souvent, les despotes, les autocrates font des erreurs.
Ils font pas le des grand erreurs. Joueur d'échecs qu'on décrit parfois et d'une manière un peu culturaliste et erronée.
Oui, alors, l'idée que Poutine, finalement, aurait un plan qu'il réalise sans difficulté, sans obstacle, et que finalement, tout le monde le laisse faire... D'accord, dans une certaine mesure, mais sur le fond, si on se rappelle, en 2022, lorsqu'il y a le bombardement de Kiev et l'entrée des chars russes en Ukraine, tout le monde pense que ça va durer quoi, quelques semaines, et on en est toujours là 3 ans plus tard. Donc on peut pas dire que l'armée russe ait démontré sa grande capacité de venir à bout de cette Ukraine, et il y a donc au départ une erreur de calcul. Il y a une erreur de calcul, et très souvent quand même, c'est le propre des dictatures, hein, c'est d'être finalement assez mal informé et de s'auto-intoxiquer avec ses propres mensonges, hein, puisque comme il y a une propagande et il y a constamment une sorte de contre-vérité, on est dans une réalité alternative, les Ukrainiens sont des nazis, l'Occident est l'ennemi principal, etc. Et au bout du compte, on aboutit quand même à parfois des actions et des stratégies qui ne débouchent pas sur ce qu'on attend. Et là, dans ce que vous venez de nous décrire, est-ce que ce serait pas justement l'erreur supplémentaire de Poutine ? On peut l'espérer, de notre point de vue, puisque là, on voit bien comment, par exemple, Trump, qui semblait, après tout, pouvoir être une marionnette dans les mains de Poutine, finalement, se met à complètement à l'inverse, à parler de partager ses renseignements stratégiques pour viser des cibles d'infrastructures en Russie, parle de peut-être fournir des missiles à longue portée. Donc, au fond, est-ce que là encore, il ne va pas y avoir une erreur à force de vouloir montrer son agressivité pour obtenir quelque chose ? Est-ce que ça ne va pas déboucher effectivement sur l'inverse ?
Alors je l'ai dit, Sabine Dulin, vous faites paraître aux éditions Payot Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie. Pourquoi ce terme-là d'abord, celui de despotisme, hein, qui est peut-être en sciences politiques un terme un peu vieilli, pour décrire la singularité, la spécificité du pouvoir russe aujourd'hui, mais également à travers l'histoire ?
Oui, alors évidemment, c'est un petit peu bizarre ce terme, hein, despotisme impérial. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors déjà, justement, c'est pas pour dire que c'est spécifique, pas tant que ça. Certes, on est dans une longue histoire, et ce qui est spécifique, c'est pas tellement le despotisme. Ce qui est spécifique, c'est ce lien très très, c'est vraiment ce nœud crucial entre despotisme et impérialisme. Parce que des despotes, il y en a hélas beaucoup trop, et pas seulement en Russie. On pourrait même en avoir en Europe, après tout. Donc,
on va venir sur le lien entre les deux notions, ouais. Hein, et notamment sur l'impérialisme. Mais encore une fois, pourquoi choisir ce terme-là,
celui de despote ? Alors, pourquoi choisir ce terme de despotisme ? C'est d'abord choisir un terme qui est un terme négatif. Bon, ça c'est incontestablement, c'est-à-dire que les Russes eux-mêmes, hein, quand ils mettent en avant un pouvoir autoritaire, puisqu'ils sont pas, Poutine n'est pas contre le pouvoir autoritaire, on le sait, utilise d'autres termes. Par exemple, avant, on utilisait le terme d'autocratie. Donc, au XIXe siècle, les tsars se disaient autocrates, et pour eux, c'était positif. En revanche, les Européens qui dénonçaient les tsars autocrates disaient despotes. À l'époque soviétique, à l'époque de l'Union soviétique. Les bolcheviks pouvaient dire qu'ils faisaient la dictature du prolétariat, mais en face, on disait que c'était du totalitarisme. Bon, donc il y a toujours des discussions sur les termes. Moi, je trouve que l'avantage du mot despotisme, c'est justement que ça enlève ce qui pourrait être uniquement russe, comme par exemple l'autocratie, comme l'idéologie panslave, pour parler d'expansionnisme, ou comme l'eurasisme, pour parler du fait que la Russie est tout entière dans l'Eurasie. Donc l'idée, c'est au contraire d'utiliser le mot despotisme comme un mot valise, un peu vieillot, mais un peu comme tyrannie, etc. Des mots qui peuvent en fait circuler entre différentes réalités. Et je reviens à quand même ce terme de despotisme impérial. Derrière, il y a le vieux mot de despotisme oriental, qui était une notion utilisée par Montesquieu. Et Montesquieu, il décrivait, quand il parlait de despotisme oriental, il décrivait la Perse, l'Empire ottoman, la Chine.
Mais la France également.
Mais il décrivait aussi la monarchie absolue française. Donc c'était une manière à la fois de montrer des réalités qui paraissaient très loin de l'Europe, avec des despotes dans leur château, etc., dans leur palais. Mais en même temps, c'était aussi une manière de dire « attention, le despotisme, ça peut être aussi chez nous ».
Je cite un extrait de votre ouvrage, Sabine Dulin. Vous écrivez « Un despote et une vision impériale, telle est la prison dans laquelle l'identité russe est enfermée depuis des siècles ». Fin de citation. Est-ce que vous laissez entendre par là qu'il y a une forme de fatalité dans ce lien entre le despotisme et l'impérialisme en Russie, et au fond dans ce que l'on peut percevoir, nous, en Europe de l'Ouest, un lien ténu entre l'autocratie et la nécessité d'étendre son territoire?
Oui, alors fatalité, non, surtout pas, puisque l'idée c'est au contraire d'arriver à dénouer ce lien entre un régime autoritaire et une conquête territoriale. Moi, ce que j'appelle en conclusion de ce livre, c'est de dire que tant que effectivement les Russes n'auront pas pris conscience de ce lien et n'auront pas fait une sorte de mea culpa par rapport à cette domination impériale des autres nations, ce sera bien difficile de construire la liberté en Russie. Mais cette histoire remonte loin, et d'une certaine manière, on aurait pu dire le despotisme impérial de la Moscovie, parce que en fait, tout ça démarre avec cette Moscovie, un royaume, une principauté, qui va finir par devenir dominante dans la zone, et qui va d'ailleurs confisquer le terme de Russie, qui était en fait un terme qui avait pu être utilisé pour la Rousse de Kiev, donc le terme de Russie, en fait, n'était pas spécifiquement lié à la Moscovie. Mais la Moscovie, en fait, récupère ce terme pour devenir la puissance de la zone et va commencer à conquérir. Et ce qui est frappant, c'est que la construction donc, du pouvoir moscovite est en fait une construction qui passe par la conquête d'un immense empire où il y a une confusion totale aussi entre la richesse et le pouvoir, puisque on conquiert et en même temps tout ça appartient, en fait c'est l'idée du domaine, voilà, d'un domaine qu'on conquiert mais qui appartient au tsar, qui appartient au prince. Donc et c'est encore le cas aujourd'hui quand on pense au pouvoir dans la Russie de Poutine, il y a une confusion totale entre la richesse et le pouvoir, et on sait à quel point Poutine s'est enrichi dans le cadre de ce pouvoir.
Il y a aussi une confusion avec d'autres empires qui ont précédé à l'Empire russe, vous évoquez notamment Pierre le Grand, qui établissait des liens directs entre sa personne et celle de César. En 1721, Pierre le Grand a pris officiellement le titre d'empereur, inspiré là aussi pleinement du modèle romain. Comment se fait-il justement que les tsars se sont pensés comme empereurs et ont eu une visée, on reviendra sur le terme d'ailleurs pour savoir s'ils se l'appropriaient eux-mêmes, ont eu des visées impérialistes dès le point de départ?
Bah alors, c'est vrai qu'il y a il y a différents héritages qui sont utilisés dans la manière dont le pouvoir russe développe son récit, puisque il y a une construction d'un récit autour de ce pouvoir, et ce récit il s'inscrit beaucoup dans la filiation byzantine. Donc c'est l'idée de cet de cet empire byzantin, donc empire chrétien d'Orient, d'où vient la religion orthodoxe, d'où vient aussi cette puissance impériale. Donc l'empire byzantin, c'est une des traditions importantes dans le récit russe. D'ailleurs, la première couronne des tsars, c'était emprunté donc à cette filiation byzantine, hein, la couronne des monomaques. Bon, mais il y avait aussi quand même sur le fond, bien sûr, une volonté d'arriver à être une grande puissance en Europe. Et ça, c'est surtout effectivement avec Pierre le Grand que ça se développe. Et donc d'apparaître comme un empire et une monarchie absolue comme il y en avait en Europe à l'époque. Et ça aussi, c'est un point quand même important parce que l'Europe n'a pas toujours été anti-russe. Hein. Sur le fond, la Russie de Pierre le Grand et Catherine II prend pied en Europe et c'est parce qu'elle est guerrière, parce qu'elle est impérialiste, parce qu'elle est absolue, qu'elle intéresse les autres monarques européens.
Je fais un bond dans l'histoire, mais est-ce qu'au XIXe siècle, au moment où l'Europe devient plus que jamais un espace qui colonise d'autres territoires, est-ce que la Russie se distingue en pensée, philosophiquement, justement, de ce type d'expansion-là? Est-ce que la Russie se perçoit elle-même comme colonisatrice et même comme impérialiste, dans le fond?
Alors, c'est ça toute l'ambiguïté, et c'est ça qui explique aussi le manque de prise de conscience de cette dimension impérialiste, colonialiste de la Russie. C'est que la Russie s'est toujours pensée comme une sorte de, on va dire, d'empire subalterne. C'est-à-dire, certes, les Russes étaient en Europe, faisaient partie des grandes puissances européennes, mais, par exemple, sur le plan économique, c'était une puissance beaucoup moins développée que l'Europe occidentale. Et donc, on sait qu'à la fin du XIXe siècle, c'était les capitaux français, britanniques, belges, allemands qui ont lancé l'industrialisation de la Russie. Donc, c'était comme une sorte de grand empire, grande puissance, mais quand même sous domination de l'impérialisme économique occidental. Parce qu'à l'époque, quand on définissait l'impérialisme, c'était toujours lié à cette question des capitaux, de l'exportation des capitaux, dans une logique un peu marxiste des choses. Et de ce fait, voilà, il y avait par ailleurs la conquête coloniale hein, du Caucase et de l'Asie centrale, de ce qu'on appelait à l'époque le Turkestan, qui est une vraie conquête coloniale, violente, avec parfois des pratiques génocidaires, des expulsions des populations qui sont déplacées de l'autre côté des frontières, etc. Mais en même temps, comme tout ça se passe dans une continuité territoriale, qu'on avance petit à petit, qu'on a les Cosaques qui conquièrent et qui sont souvent dans des situations de rencontre avec les populations indigènes.
Parce que des peuples vivant en périphérie de l'Empire, notamment.
Voilà, donc il y a toutes ces populations nomades, les musulmans d'Asie centrale, etc. Mais cette avancée, elle est progressive, même si elle est très rapide. Et au fond, on n'arrive pas à y mettre le même contenu ultra-colonial qu'on a quand on regarde la Belgique qui conquiert le Congo.
Est-ce que ce lien ténu entre despotisme et impérial est tout de même repensé à la lumière de la révolution de 1917 ou simplement cette révolution et les souverains communistes soviétiques qui suivront ne font que réencoder cette notion, j'allais dire, centenaire?
Alors, j'aime bien l'idée de réencodage parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en même temps, bon, je crois que le seul qui a fait vraiment des discours postcoloniaux, c'est Lénine quand même. Donc, Lénine, il insiste sur le fait que les Russes, c'est la nation dominante, c'est le chauvinisme grand russe, et qu'on ne fera rien si on ne dit pas, finalement, très clairement, qu'il faut réussir à compenser cet impérialisme russe en, finalement, en faisant de la discrimination positive en faveur des nations non russes. Et toute la construction de l'Union soviétique vise à égaliser les relations entre les nations. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Poutine déteste Lénine. Mais en même temps, tout ça revient malgré tout. Et on ne peut pas dire que ni dans les pratiques de la reconquête de l'espace soviétique, ni dans les pratiques de finalement de la domination par le centre des périphéries. On n'est pas encore dans de l'impérialisme à l'époque soviétique. Et puis alors c'est encore plus vrai avec Staline, qui reconquiert une bonne partie de ce qui avait été des États nouvellement indépendants dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les États baltes, la Pologne orientale, tous ces États qui sont reconquis au moment du pacte germano-soviétique.
L'extrait d'un discours donné par Vladimir Poutine devant la Douma, c'était le 25 avril 2005.
Je vais rappeler une fois encore comment l'histoire récente de la Russie a commencé. Tout d'abord, il faut reconnaître, et j'en ai déjà parlé, que l'effondrement de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Pour le peuple russe, elle a été un véritable drame. Des dizaines de millions de nos concitoyens et compatriotes se sont retrouvés hors du territoire russe. Beaucoup pensaient ou semblaient penser que notre jeune démocratie n'était pas une continuation de l'État russe, mais son effondrement ultime, l'agonie prolongée du système soviétique.
Comment est-ce que vous analysez, Sabine Dulin, l'extrait de ce discours au regard de la notion qui est au cœur de votre ouvrage, celle de despotisme impérial ?
Oui, alors, despotisme impérial, sous couvert aussi d'anti-impérialisme, ça c'est un peu compliqué, c'est une forme d'empire anti-impérialiste depuis l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on fait de l'impérialisme, mais on dit qu'on est anti-impérialiste, donc anti-américain, anti-occidental. C'est le cas de, évidemment, Poutine qui peut, comme ça, utiliser plusieurs scénarios précédents, c'est-à-dire l'anti-impérialisme soviétique et en même temps la grande puissance impériale de l'époque tsariste. Donc il recycle un peu tout dans cette affaire, mais là, en l'occurrence dans le discours, c'est surtout donc une volonté véritablement de restaurer une grande puissance impérialiste, avec le même discours que ce qu'il y avait eu dans l'entre-deux-guerres avec Hitler, l'idée que il faut réunir tous les russophones dans l'ensemble de cet ancien espace soviétique. Donc il y a évidemment le danger d'un plan qui viserait non seulement à reconquérir l'Ukraine, mais même reconquérir les pays baltes, par exemple.
Une idée importante au cœur de votre ouvrage, Sabine Dulin, l'idée selon laquelle la dénonciation de la Russie en France, dans l'Occident d'une façon générale, en Europe, permet aussi aux Occidentaux, aux Français, aux Européens de se protéger de leur propre zone d'ombre. Il faut nous expliquer justement, là aussi, ce lien ténu.
C'est-à-dire qu'il y a toujours, et là on le voit bien avec la frontière anti-drone, donc il y a toujours l'idée que donc il y a l'Europe d'un côté et la Russie de l'autre. Il n'y a pas toujours eu ça d'ailleurs, mais dans les grands moments de confrontation, guerre froide, au 19e siècle aussi, il y a une forte russophobie et une volonté de se dissocier. Donc évidemment c'est rassurant de se dire que on est absolument immunisé contre le genre de dérive qui existe en Russie, aussi bien despotisme qu'impérialisme. Mais dans les faits, il faut bien se rendre compte d'abord que tous les Européens, on a tous été des grands empires coloniaux. Donc l'impérialisme, c'est quelque chose que l'on connaît du passé et éventuellement encore aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est évidemment les orientations et le discrédit de notre démocratie beaucoup. Et donc le risque, effectivement, le risque que la Russie devienne une nouvelle avant-garde conservatrice et réactionnaire pour nos sociétés. Il faut bien voir que la défense des traditions patriotiques, la défense le fait de montrer ses muscles comme le fait Poutine, etc., c'est quelque chose qui a un certain succès dans une partie de nos sociétés, d'autant que c'est associé à un anti-impérialisme américain qui a toujours été très présent dans nos sociétés. Donc, bien évidemment, que tous ceux qu'on appelle les populismes ou les mouvements illibéraux en Europe pourraient se saisir finalement de cette de ce modèle russe pour subvertir nos démocraties. Et c'est là où, effectivement, c'est important d'avoir malgré tout ces coups de semonce hein, tels que celui qui a été fait par Poutine récemment, voilà, qui fait que peut-être il y a un sursaut des forces démocratiques en Europe contre ça.
Du moins, pouvons-nous l'espérer. Merci beaucoup, Sabine Dulin. Je recommande la lecture de votre ouvrage qui est apparu chez Payot, Réflexion sur le despotisme impérial de la Russie. Et je remercie également celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain. À la réalisation, c'était François Richer et Anthony Thomasson ce soir à la technique.